Vous écoutez RTL.
Bah écoutez, c'est parti pour Laissez-vous tenter, voilà.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, les confidences croisées d'un duo inédit de Catherine, Mesdemoiselle de Neuf-Effraux, seront mercredi prochain à l'affiche du film Sage-Femme. Et elles se sont confiées à Stéphane Boutsock. Les plus grands chefs-d'œuvre d'Auguste Rodin vont être exposés au Grand Palais à Paris, à suivre la visite guidée en avant-première avec Monique Younes. Et rendez-vous au 32-10, puisque nous vous offrirons des entrées et le magnifique catalogue de cette exposition Rodin qui démarre mercredi. Et puis à la télévision ce soir, la série française K1 est de retour pour une cinquième saison sur France 2. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Et on commence, Stéphane, avec l'événement cinéma de mercredi prochain, le premier face-à-face sur grand écran de deux Catherine, oui. Mesdemoiselles Deneuve-Effraux. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
C'est le réalisateur Martin Provost qui les a réunis dans le film Sage-Femme.
Le metteur en scène de Séraphine, rappelez-vous, a d'ailleurs écrit les rôles en pensant aux deux actrices, Catherine Effraux et Claire, sage-femme dont la maternité va fermer faute de rendement, Catherine Deneuve et Béatrice, ancienne maîtresse du papa de Claire, qui fait réapparition des années plus tard, malade, ruinée par sa passion du jeu. Un côté cigale, indépendante, qui va se trouver fort dépourvu l'automne de sa vie venue.
Alors, comment fonctionne ce duo d'actrices à l'écran? Et est-ce qu'elles se connaissaient, surtout avant le film?
Alors non, pas du tout. Or, le film repose entièrement sur ce duo. Sa crédibilité dans le film est à la fois sensible et drôle, brassant les thèmes du pardon, de la famille, du droit au bonheur. Alors, en effet, comment ça marche? Catherine Deneuve répond d'abord.
Mais il faut toujours s'apprivoiser quand on sait qu'on va travailler pendant 2 mois et demi ensemble comme ça et qu'on va être en plus. Moi, presque toutes mes scènes sont avec elle. Voilà, il faut faire connaissance d'une certaine façon pour se découvrir. Il faut un petit peu de temps pour s'accepter. Je sais qu'elle me fait beaucoup rire dans des films de Pascal Thomas. Voilà, et que je la trouvais très, très unique, très particulière, avec un ton, une façon de parler très particulier quand même. Elle a une voix assez étonnante.
La vie de Catherine Effraux, à présent.
Oh, il y a une petite observation marrante, quoi, si vous voulez. On doit se regarder un petit peu du coin de l'œil, mais c'est le travail qui compte. On se pose pas 1000 questions, curieusement. Et j'ai aimé sa présence. Je me sentais bien. Le personnage de Béatrice dans le film raconte qu'elle a été princesse hongroise, alors qu'en fait, elle est fille de concierge. Donc, c'est un espèce de personnage, oui, à panache, un peu curieux, un peu mystérieuse. Et pour moi, Catherine Deneuve, c'est ça, parce que quand j'étais enfant, j'ai vu Catherine Deneuve grande, quoi, adulte. C'est cette irréalité-là, ce petit mystère-là, qui fait que c'était marrant, quoi.
Point commun entre les deux stars, elles ont dû se glisser dans le quotidien de leur personnage. Pour Catherine Effraux, ça veut dire qu'elle a appris le métier de sage-femme. C'est elle qui met au monde, dans le film, les bébés dont elle accouche les mamans à l'écran.
Ah, si vous voulez, ça paraît tellement énorme que quelque part, c'est rien du tout. Il s'agit de faire les gestes qu'on m'a appris pendant quelques jours. C'est tout. Tout le premier quart d'heure, c'est moi qui sors les bébés du ventre des dames. C'est quand même unique comme expérience. Mais à la fois, ça m'a fait ni chaud ni froid, parce que sinon, si j'aurais trop tremblé, j'aurais pas été bien, s'il avait fallu que je sois émue, hein, voyez. Bon, jusque-là, j'ai été cuisinière de haut vol, pianiste virtuose, chanteuse complètement faux, et là, je suis sage-femme. Bon, bah, ouais, mon métier, c'est vraiment des voyages fantastiques. Hein. Je suis toujours dans des dimensions comme ça, moi. Pourquoi c'est tombé sur moi?
Pardonnez-moi, j'insiste.
Oui.
On voit bien dans ce film Catherine Effraux accoucher des vraies mamans avec de vrais bébés.
Elle a rencontré les vraies mamans quelques minutes avant le tournage. Les mamans étaient prévenues, hein, évidemment, c'est elle qui accouche les bébés.
C'est dingue. Alors ça veut donc dire que Catherine Deneuve, de son côté, s'est mise au jeu de cartes pour interpréter Béatrice.
Mieux, elle a en fait investi les salles de jeu, les tripots clandestins où évolue son personnage.
Je connaissais les cartes, mais je ne connaissais pas ces endroits secrets qui sont des arrière boutiques. Dans des cafés où viennent jouer des gens qui sont vraiment des habitués et qui jouent gros et qui jouent souvent. Enfin, on sent que c'est vraiment leur vie. C'est assez impressionnant. Ce sont vraiment des tripots. Hein. C'est vraiment des... Donc, c'était étonnant l'endroit où on a tourné. C'était un endroit où vraiment ça se passait. Donc, c'était assez... Et les gens qui ont tourné, d'ailleurs, ce jour-là, c'était mon premier jour de tournage, étaient des gens qui jouaient dans la vie. C'était vraiment des joueurs.
Ils ont dû être surpris quand ils ont vu Catherine Deneuve. Alors, vous parliez au début, Stéphane, de la fermeture de la maternité où travaille le personnage de Catherine Effraux. Il y a aussi un message social dans le film, j'imagine.
Oui, mais alors, jamais surligné. L'essentiel est dit en quelques scènes. Ces établissements de taille modeste qui ferment, on le sait, au profit de ce qu'on appelle les usines à bébés, au rendement plus productif. Catherine Effraux.
toute notre société, elle est souvent basée là-dessus. C'est-à-dire jusqu'à quel point les gens se sentent pas des bestiaux, des numéros. On n'aide pas les gens avec tout ce qui change. C'est pas normal. D'un côté, c'est le rendement. D'un autre côté, il n'y a plus rien en face, quoi. C'est plus de regard.
Alors Catherine Deneuve, quant à elle, a récemment pris la défense des agriculteurs menacés par la désertification des campagnes et la baisse du prix de leurs produits. Face au climat, on va dire, général de la société, elle se veut concernée et surtout pas indifférente.
Non, je ne peux pas faire abstraction de ça. Je fais abstraction de ça quand je travaille. J'ai la chance de faire un métier où on peut oublier beaucoup de choses. Donc je m'informe et c'est vrai que tout ça n'est pas très positif. C'est inquiétant. On voit bien qu'on est quand même à un moment où il va falloir changer les méthodes et puis sans doute passer par des chats des aiguille un peu plus petit que ce qu'on avait connu avant, qu'il va falloir s'habituer et qu'il va y avoir de la perte, qu'il va y avoir de la casse, comme on dit, ça c'est certain. Donc c'est très inquiétant, très préoccupant. Et la vie des gens qui sont préoccupés me préoccupe.
Épatant duo d'actrices Catherine Deneuve, Catherine Fraud, mais aussi Olivier Gourmet par exemple, dans Sage-femme de Martin Provost, ça sort mercredi prochain au cinéma.
On les écouterait l'une et l'autre pendant des heures. Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Ah bon, on les a nos audiences.
Oui, bah, bien sûr
donc,
qu'on les a.
Écoutez, réveillez-vous. Avec Médiamétrie, elle a un aplomb, ouais. Tu sais. Et je suis gentiment en train de somnoler.
Non,
avec
pas
les
du
audiences
tout.
Sous le coude.
J'écoutais tout le monde religieusement et ça me permet de vous dire que section de recherche est comme d'habitude en tête avec 5 800 000 téléspectateurs et 24% du public sur la une. Deuxième, Scorpion, exactement comme les semaines précédentes, oui. 2 600 000 téléspectateurs et 10% du public, 11% du public sur la 6. Troisième position, c'est toujours le groupe M6, W9, le football. Là aussi, c'est un record. Oui. 2 030 000 téléspectateurs et quasiment 10% du public sur W9 pour voir l'AS Roma Lyon à l'OL. Mmh. Et alors, la déception est pour Envoyé spécial, moins de 2 millions, 1 910 000 très exactement, 10% du public sur la 2.
Le Front National, une fois de plus.
Il y avait un grand dossier sur le Front National, voilà. Et alors, côté TNT, et ben c'est Sherlock, la série de France 4, qui rassemble 770 000 téléspectateurs largement en tête de la TNT.
Et on va vous retrouver dans quelques instants avec votre ami Cain. Hein, vous l'avez pris sous le bras et puis allez hop.
Et
il est pas là, ça va pas plaisanter hein, avec le Cain. Et puis on va surtout aller visiter une merveilleuse exposition au Grand Palais, elle est consacrée à Rodin. Et nous serons bien entendu avec notre initiatrice habituelle, Monique Younès.
On l'appelle RTL. L'initiatrice. RTL Matin, laissez-vous tenter 9h13. Grâce à vos dons, la Ligue contre le cancer est une association totalement indépendante. Dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre le cancer, les bénévoles de la Ligue se mobilisent pour collecter des fonds. Pour faire avancer la recherche et aider les personnes malades, vous aussi, mobilisez-vous. Adressez vos dons à la Ligue sur ligue-cancer.net.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Monique Younès,
oui.
Pour marquer le centenaire de la mort d'Auguste Rodin, une exposition au Grand Palais confronte ses œuvres avec celles des artistes qui lui ont succédé pour montrer combien Rodin a révolutionné la sculpture et finalement inspiré ses héritiers.
Oui, ils ont tous été convoqués au Grand Palais. Carpeaux, Richier, Bourdelle, Brancusi, Matisse, Picasso, Giacometti et bien sûr Camille Claudel. Mais aussi plus proche de nous, Baselitz, Rupert, Soudoden. Ils ont tous à un moment donné été inspirés par les assemblages improbables de Rodin, l'attitude d'un de ses personnages, l'expression d'un autre, son mouvement. Et même si certains artistes ont du mal à l'admettre, les formes de leur sculpture le prouvent, m'a fait remarquer la commissaire de l'exposition Hélène Pinet en me montrant un torse d'homme au début de l'exposition, très modelé, très expressif.
Et Rodin a créé cette œuvre dans les années 1880 et puis il l'a oubliée dans un coin d'atelier. Alors l'œuvre a vécu, c'est-à-dire qu'en fait la terre a bougé, elle a craquelé, puis tout d'un coup dans les années 90, il la regarde à nouveau et il s'aperçoit qu'elle n'est pas si mal que ça. Il va repartir de ce torse pour créer une autre œuvre qui va devenir L'homme qui marche. Vous voyez, une œuvre vraiment emblématique du XXe siècle. Et dans cette exposition, ce qui est merveilleux, c'est que pour la première fois, on voit L'homme qui marche de Rodin avec L'homme qui marche de Giacometti. Ce qui les rapproche, bien sûr, c'est L'homme qui marche et cet homme qui avance. Voilà, avec les jambes écartées, il y a un mouvement, un allant. Et ce qui les différencie, eh bien sûr, avec Rodin, vous avez toute l'étude de la musculature, il y a une force, une puissance très importante. Et Giacometti, eh bien, c'est toutes ces formes que tout le monde connaît, très étirées, très épurées, très nerveuses. C'est deux mondes très différents et à la fois très proches.
Elle parle bien, Madame Pinet. Alors, Rodin, c'est le père de la sculpture moderne, c'est confirmé?
C'est encore plus vrai dans l'évolution de son œuvre telle qu'on la découvre au Grand Palais. Des sculptures académiques à ses débuts qui deviennent très vite très expressionnistes. Rodin n'a pas seulement modelé des corps, il a fait
fait jaillir la passion, la souffrance, le désir, surtout le désir, l'érotisme même. Avec Rodin, le marbre tremble, avait-on l'habitude de dire. Et les sculptures, comme le baiser, le penseur, les bourgeois de Calais, les pleureuses, l'âge des reins, font partie de cette période qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'érotique. S'il ne leur manque que la parole, en revanche, on a l'impression de les entendre gémir, jouir. Et puis petit à petit, Rodin va supprimer tout ce qui est inutile pour ne conserver des formes que l'essentiel. Et sa sculpture représentant Balzac résume à elle seule cette évolution.
Rodin a toujours besoin de travailler d'après un modèle vivant, donc il va aller dans la région de Tours, essayer de trouver un modèle qui lui ressemble. Il trouve un conducteur qui pose pour lui, donc il prend des photographies, mais tout ça n'était pas suffisant. Donc Rodin retrouve le tailleur de Balzac, lui demande de lui faire une robe de chambre telle que l'homme de lettres le portait, simplement pour avoir une idée, vous voyez, de l'envergure du personnage. Il va utiliser cette robe de chambre, il va la tremper dans du plâtre et la faire tenir debout toute seule. C'est vraiment une pièce tout à fait extraordinaire qui est présentée dans l'exposition. Et il va partir de là, il va vraiment modeler un visage très fort et il va envelopper le corps de cette robe de chambre et donner vraiment une synthèse du personnage.
Et la synthèse que Rodin fait de l'image de Balzac ne correspond en rien à l'image de l'homme de lettres que le public a l'habitude de voir.
Ah, c'est pour cela que la sculpture fera scandale.
On n'appellera pas ça de l'art si ça n'avait pas fait scandale. Le Balzac de Rodin, aujourd'hui considéré comme un des piliers de la modernité.
La modernité de Rodin vient aussi du mouvement qui anime ses sculptures.
Exact, et que montre à merveille la série de danseuses nues, danseuses parmi lesquelles on reconnaît un étonnant Nijinsky en faune de l'après-midi. Et dans l'exposition Rodin du Grand Palais, une belle place est aussi accordée aux nombreux dessins de femmes nues que Rodin réalisait dans son atelier.
Vous savez que Rodin demandait donc à ses modèles d'être naturels, c'est-à-dire qu'il lui disait ne faites pas semblant de marcher, ne faites pas semblant de vous coiffer, marchez, coiffez-vous, marchez devant moi. Alors, les visiteurs qui venaient dans son atelier le représentent toujours, ne quittant pas le modèle des yeux et dessinant sur son papier. Alors, c'est peut-être un peu une image finale, il n'empêche que ses dessins, il y a un côté où il jette vraiment le mouvement sur le papier, c'est tout à fait extraordinaire. Et ensuite, après, il balance de l'aquarelle avec des couleurs très très vives. Pour l'époque, c'est quelque chose de très très nouveau, tout à fait formidable.
Des aquarelles dont certains ont vu à Rodin ont valu à Rodin d'être traité d'érotomane comme si c'était une injure.
Bah, évidemment pas.
Ben non, ces splendides aquarelles sont exposées au Grand Palais, écrasent tous les dessins des artistes qui lui ont succédé. Allez les voir, Rodin, l'exposition du centenaire, juste jusqu'au 31 juillet.
Oui, jusqu'au centenaire. Ah ben, on fait gagner des entrées aussi.
Mais bien sûr, et le magnifique catalogue de l'exposition.
Oui. Il faut répondre pour ça à la question suivante. Le penseur de Rodin était-il assis ou couché?
Bien sûr, parce qu'on ne sait pas toujours à quoi il pense.
Non, d'accord.
Alors, est-il assis ou couché, le penseur?
C'est la question, voilà, et vous nous répondez au 3210. Et on vous donne la réponse de la fin de l'émission. On vous gâte ce matin.
Écoutez, j'y pense un peu.
Oui, oui.
Voilà. Et puis j'appelle. Pensez-y. Voilà, oui, 3210.
Pas la télé, d'ailleurs.
RTL Matin, laissez-vous tenter, 9h20.
Parfois, j'y pense et puis j'oublie. Hein.
Mais assis ou couché?
RTL Matin, laissez-vous tenter, avec Yves Calvi.
Et Isabelle Morini-Bosque pour la télévision ce week-end. Alors, on signale d'abord le démarrage de la saison 5 de K1, c'est sur France 2.
Oui, cinquième saison, des enquêtes de ce flic handicapé depuis un accident de voiture où il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. C'est un héros attachant, avec un humour pur Javel. Le voici avec sa jeune coéquipière et la légiste dans un asile où a été découvert le cadavre d'une psy.
La mort remonte à 21h17.
Quelle précision. La médecine légale serait devenue une science dans la nuit.
Ça élimine les visiteurs. Notre assassin est donc un membre du personnel ou un patient.
Un patient qui tue son psy, ce serait d'une banalité.
Qu'est-ce qui vous fait
croire? C'est Bruno de Brandt. Honnêtement, c'est une bonne série à quelques incohérences près, avec ce soir Mylène de Mongeau et Nicole Calfin.
Ah, j'adore Mylène de Mongeau.
Ah, moi aussi.
J'aime beaucoup d'ailleurs aussi Nicole Calfin.
Moi
alors,
aussi.
Samedi, c'est Arte qui vous intéresse.
Oui, la chaîne propose demain un reportage formidable sur ce chef d'une tribu papou qui veut empêcher la destruction complète de sa forêt, l'une des dernières primaires du monde. Moi, j'adore ce film tourné par Luc Maresco, exceptionnel documentaire. Je fais tronc commun avec lui, si j'ose dire.
Oh, c'est beau. Et dimanche, on va sur C8 pour suivre une spéciale dans laquelle les candidats répondent aux questions des enfants.
Oui, l'émission produite par Mélissa Torio s'appelle tout simplement Présidentielle Candidats au tableau. Ils ont chacun une minute pour répondre à une question précise des enfants qui ensuite peuvent leur en poser d'autres. Sont là Hamon, Fillon, Mélenchon et tiens Macron.
Entre la droite et la gauche avec une craie et en une minute s'il vous plaît.
Ah oui, vous êtes comme ça vous.
Il y a des craies dans le
bras. Attendez, c'est...
La droite et la gauche politique.
C'est moi le prof ou c'est... Alors, les craies sont où? Elles sont voilà. Là.
D'accord.
Alors voilà, Mélissa Torio, qui l'eût cru dans la campagne présidentielle, Mélissa?
Oui, exactement. Une fois n'est pas coutume. Là, c'est un documentaire un peu particulier qui m'a été proposé par Caroline Delage et qui est une idée absolument géniale, simple comme bonjour, à mettre les candidats à la présidentielle face à une classe d'enfants et de les confronter aux questions sans filtre des enfants. C'est ce qu'on a fait avec les quatre candidats principaux, sauf Marine Le Pen qui n'a pas souhaité venir rencontrer notre classe.
Vous rentrez donc dans la compétition des temps de parole du CSA qui est un tel casse-tête.
Exactement. Donc Marine Le Pen a hérité d'un documentaire qui était diffusé sur C8. Voilà, si elle était venue, on aurait pu essayer d'équilibrer, mais c'est un casse-tête. On est encore dans un temps d'équité dimanche soir. Et après, évidemment, la donne va se compliquer à nouveau où on sera dans des calculs évidemment très précis.
Oui, mais dans quelle mesure les questions politiques d'enfants de 10 ans, franchement, viennent vraiment d'eux?
Oui.
Dans la mesure où on a été chercher des enfants qui s'intéressaient à la politique. Et c'est toute la force du concept, de ne pas amener des politiques devant une classe qui existe déjà, mais d'avoir composé nous-mêmes une classe d'enfants de 10 ans, d'être allé les chercher aux quatre coins de banlieue, de Paris, de province, et d'avoir constitué une classe qui s'intéresse vraiment à ce débat citoyen en politique. Alors évidemment, ils ne connaissent pas précisément les mesures des candidats, mais on les a nourris. On a pu ainsi cueillir leurs questions, leur répartir un peu la parole, et réellement respecter la spontanéité, la curiosité des enfants. C'est ce qui fait que les politiques doivent changer vraiment à la fois de comportement, de langage et s'adapter à un public tout à fait nouveau. Ils ne sont pas habitués à parler à des enfants.
Oui, bah justement, ça va leur faire drôle à tous de devoir aller à l'essentiel.
On ne peut pas se défiler face à un enfant. On rend un grand service à tous les journalistes politiques qui les reçoivent tous les jours. Peut-être qu'après ce passage-là, on récupère des candidats plus à l'écoute ou qui seront capables de répondre un peu différemment ou plus simplement. Cette émission pourrait du coup se pérenniser, être de façon événementielle toute l'année avec des membres du gouvernement, avec des fortes personnalités politiques qui viendraient là aussi s'essayer à cet exercice, changer leur jargon et du coup toucher pas uniquement les enfants. Hein. Il s'agit d'une émission politique grand public.
Bon, on verra, ça dépendra des audiences. En tout cas, vous retrouverez dimanche Mélissa Thoriot dans les dessous de l'écran, le magazine média de Philippe Robuchon. Ce sera quelques heures avant la diffusion de l'émission à 21h sur C8. Et puis je signale quand même que ce week-end, ce soir, il y a également sur C8 la retransmission du concert de Laurent Gérard donné au Châtelet en mai 2014. C'était pour ses 25 ans de carrière et ça m'a fait rire. Je l'ai tout regardé.
Et moi je dis bravo. Dans quelques instants, vous saurez si vous avez gagné des invitations pour aller découvrir Rodin au Grand Palais
et
surtout le magnifique catalogue. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dites-moi, cher Monique Younes, le penseur de Rodin, il était assis ou couché?
Il pensait assis.
Il pensait assis. Voilà. Si vous nous avez appelé au 3210, vous avez gagné de magnifiques catalogues de l'exposition Rodin et des places pour aller découvrir cette expo au Grand Palais que vous montre en ce moment même Mademoiselle Younes. Merci à toute l'équipe et bonjour à Julien Courbet.
Comment allez-vous?
Oh, ça va très bien.
Bon, alors le Rodin pensait assis.
Oui, le Rodin pensait assis. Oui. Vous aussi d'ailleurs.
Oui, Elton John jouait du piano debout. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
C'est pas vous, modèle. Plein.
Pardon?
C'est pas vous le modèle?
De Rodin?
Oui.
Oui, si. Mais en plus, moi, comme je n'avais aucune pensée, si vous voulez, il a eu pris tout son temps pour faire la statue. Hein. Il y a quelque chose qui vient? Non, attends, continue. Donc, il a pris 9 jours et au bout d'un moment, il a dit bon, c'est bon, arrête de penser, j'ai fait ma statue.
Julien, il ne pense pas, il agit.
Ah, il agit?
Ouh. Ah, bah oui.
Ah, passons, il agit.
Il est en mouvement. Ben oui,
vous êtes en mouvement, vous permanent, vous défendez la veuve, l'orphelin.
Effectivement. Et l'étudiante aussi. Merci, mon Yves. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne douche.
Au revoir. Ah, ben ça tombe bien que vous parliez de douche, puisque c'est un monsieur qui se douche à l'eau froide depuis longtemps que nous allons accueillir.
Je l'ai senti.
Bon, le voici, il s'appelle Guillaume. Écoutez ce que Guillaume nous a dit.
Cela fait plus de 30 jours que je me lave à l'eau froide. Tout cela à cause d'une chaudière qui ne fonctionne pas depuis 2 ans.
Voilà.
Elle est tombée en panne plus de 10 fois et cela ne perturbe pas le bailleur.
Vous vous levez tôt, avouez que si on vous obligeait à 3h du matin à prendre une douche glacée, croyez-moi que ça ne vous ferait pas plaisir.
Ça ne me ferait pas plaisir et je compte sur vous pour vous occuper.
Nous allons le faire. Bon week-end, mon Yves.
Bonne journée.